Dès les premiers jours de septembre, une petite brise un peu trop fraîche va soudain cueillir au passage une jolie feuille d'un jaune éclatant qui tourne et glisse et virevolte aussi gracieuse qu'un oiseau.
CO2, mon amour.
Mais dans mon pays de Provence, le thym, le romarin, le cade et le kermès gardent leurs feuilles éternelles autour de l'aspic toujours bleu. Et c'est en silence au fond des vallons que l'automne furtif se glisse.
Denis Chessou.
Et pour mieux cacher sa venue, il fait rougir les naïves arbouses qui l'ont toujours pris pour le printemps.
Ouais, vous voyez, on va essayer de se faire du bien donc avec cet automne dans cette émission. CO2 Mon Amour, votre magazine de nature et d'environnement avec Ludovic Asselot et Arnaud Caillet à la technique et assisté de Claire Destacan, c'est Xavier Pessugia qui réalise l'émission. C'est quoi ce monde de cinglés ? Il n'y a pas que le climat qui est déréglé. Il y a le cerveau des gens qui ne fait plus société. Tout est chaud, le climat, les pulsions, la météo. Sur le terreau bien connu de l'ignorance, de la misère, de l'inculture, de la tentation, du besoin de reconnaissance, sur le terreau des frustrations, quand on n'a pas de vraie réponse à donner, autre que « acheter, regardez-moi dans les yeux, consommer, je le veux », c'est dans la brèche que la folie radicale vient s'engouffrer. Il n'y a pas que le climat qui est déréglé. Il y a le cerveau des gens. Alors, quand les bourgeons ne savent plus où donner de la tête, quand le sol de l'âme est sec, qu'il ne peut pas vous nourrir, pulsion de mort face aux lumières, alors là, le crime, la barbarie en bandoulière appuie sur la gâchette. Depuis qu'on les a inventés, on s'est toujours respecté, ou bien tué pour des dieux invisibles dont personne n'a la preuve. La foi n'a pas besoin de preuves. Tenez, hier, c'était quoi ? C'était la journée mondiale de la gentillesse. Ah ouais. En fait, ce fut la journée de l'accélération du pire. Que dire à nos enfants dans cet automne déréglé, dans cet automne de mai au mois de novembre ? Que dire à nos enfants quand on marche dans une flaque de sang ? Là-bas, au cœur de la guerre, à 3 heures d'avion, c'est le quotidien des enfants. Chez nous, cette barbarie d'hier soir, c'est la dernière insouciance qui fuit en s'envolant. Alors prends ma main, petit bonhomme. Moi, je te conduirai là où je pourrai pour construire de la paix. En attendant, pour les survivants, les hôpitaux ont soif. On va donner notre sang. Ouais, c'est encore un acte gratuit pour relier les innocents à terre et les vivants. Prends ma main, petit bonhomme. On va pas se mettre à genoux, on va rester debout. On va faire notre boulot d'homme. C'est prodigieux, tu sais, un humain. C'est pas seulement ce que t'as vu hier soir et qui nous plonge dans le noir, non. Non, il n'y a pas que le climat qui est déréglé. Mais pour nous et pour ceux qui ont perdu la vie, face à ces barbares, à ces criminels, faut lutter, il faut rester en vie. Ah, tenez. Un bout de réponse, un bout de lumière. Là, je vois une chanson.
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées. Que c'est beau la vie. tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé. Que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter. Oui, c'est beau la vie.
Nous avions prévu de toute façon de célébrer l'automne dans cette émission. Et puis, ben, un homme sensible à tous ces événements et aussi à la nature, c'est Jean-Marie Pelt. On avait besoin de vous. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Alors Jean-Marie, peut-être retour de Strasbourg justement il y a quelques jours.
Oui, vous venez de nous donner un très beau texte sur les feuilles qui jaunissent et qui rougissent. Je rentrais de Strasbourg en voiture. Comme d'habitude, je regardais la beauté de la nature autour de la route. Et figurez-vous que je vois, à un moment donné, des feuilles d'un certain jaune par terre qui évoquent pour moi, mais tout d'un coup, d'une manière absolument subite, une vive émotion me ramenant à mon enfance où c'était pendant la guerre. Je collectionnais les feuilles d'automne et je l'ai collé dans un album. Et je me rappelle que mon père était à côté de moi, que c'était un bel automne comme cette année, et que je me sentais dans une atmosphère de protection, de douceur, de cohérence entre la nature et mes parents. Et ce sentiment, je l'ai ressenti, mais vraiment très fort, pendant plusieurs jours, là. Jusqu'à cette nuit fatale où l'absolue barbarie des hommes s'est manifestée et où je me suis demandé comment peut-on dénaturer à ce point la beauté de la vie qu'on vient de célébrer par cette très belle chanson et la beauté du monde. Et ce qui est encore pire, tuer au nom de Dieu, ce que je trouve une chose proprement insensée. Alors se pose la fameuse question, l'homme est-il profondément mauvais ? C'est la question du mal. Eh bien non, parce que je regardais la télévision tout à l'heure et je voyais tous ces gens qui sont empressés de venir au secours des victimes en donnant leur sang, en étant proches de ceux qui ont été touchés et qui ont souffert. Et je me disais, c'est ça que nous devons cultiver absolument.
C'est-à-dire que la plupart des gens sont quand même du côté de la vie et pas de l'obscurantisme, pas du côté de l'apocalypse, quoi.
Absolument, oui. Absolument. Et je pense qu'il faut que notre société hyper matérialiste, hyper consumériste, puisse offrir d'autres valeurs pour que ces jeunes qui sont des enfants perdus, qui sont des enfants qu'on a menés dans ce qui est de pire, c'est-à-dire la mort, que des jeunes puissent trouver de l'espoir dans une société qui leur offre un avenir. Alors on aimerait ça. On aimerait aussi, moi j'aimerais beaucoup, que la communauté internationale se mobilise tout entière contre ce cancer qu'est Daesh et contre ces métastases partout de ce cancer épouvantable. Nous sommes seuls, nous les Français, avec les Américains, à être intervenus en Syrie et en Irak. Nous n'avons pas entraîné avec nous les autres pays de l'Europe. Si l'Europe avait été fédérale, mais la France n'a pas voulu qu'elle le soit il y a 40 ou 50 ans, nous serions partis tous les Européens ensemble. Alors, là, nous sommes seuls et nous sommes évidemment les plus visés. Et c'est une des raisons pour lesquelles les attentats se déroulent chez nous. Il faut mobiliser absolument une coalition internationale large pour, je vais prendre un mot que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, écraser cet hydre monstrueux.
Jean-Marie, vous avez connu, vous, ces régions, donc il y a une quarantaine d'années, donc ça n'avait strictement rien à voir, mais en paix, c'est-à-dire que vous avez herborisé au Moyen-Orient, vous avez fait l'Afghanistan, l'Irak, l'Iran, vous êtes aussi allé à Damas, c'était tout à fait évidemment différent.
C'était complètement différent. C'était en 63, en 64, en 67... Ces pays étaient merveilleusement accueillants. Nous étions accueillis par les communautés chrétiennes très vivantes dans tout ce Moyen-Orient.
Et musulmanes aussi.
Et musulmanes, naturellement. Ah oui. J'étais accueilli par les communautés musulmanes en Afghanistan, qui est un pays intégralement musulman, avec des relations d'hospitalité par rapport à nous lorsque nous crapahutions dans les hauts plateaux et les montagnes de l'Hindou Kouch. Nous avions un rapport... très 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 chaleureux avec tous ces gens. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à ça? Et moi, j'aimerais bien que, comme me le disait une personne musulmane que j'avais au téléphone ce matin, que les communautés musulmanes pacifiques en France, dans leur immense majorité,
bien sûr.
Les musulmans de France veulent la paix, ils ne veulent pas Daesh. Que ces communautés musulmanes disent clairement qu'elles mettent Daesh vraiment à l'encan, que ce ne sont pas des musulmans, parce qu'ils ne sont pas pour la paix, parce qu'ils sont pour le meurtre et pour la guerre. Et on attend que des prises de position fortes soient prises aussi de ce côté-là.
Merci à vous, Jean-Marie, pour cette parole. Puisque vous avez votre jardin lorrain, donc sous les yeux, sur votre plateau lorrain, et que donc on célèbre l'automne aujourd'hui, quelle est la couleur de l'automne? Ou peut-être les un ou deux mécanismes importants à comprendre de l'automne, d'un point de vue naturaliste.
Qu'on ne connaît pas et qu'on doit évoquer aujourd'hui parce qu'il est d'actualité, c'est que c'est en automne que se forment les bourgeons qui exploseront au printemps prochain et qui passeront l'hiver à l'état de bourgeon, protégé d'ailleurs par des écailles le plus souvent. Alors l'automne est porteur de printemps. Et je voudrais évoquer un vers récent que j'ai retrouvé de Charles Péguy, qui est mort dans les tout premiers jours de la guerre de 14-18 sur le front, et qui parlait de la petite fille Espérance. Une petite fille de rien du tout, mais une petite fille qui peut tout. Eh bien, c'est à cette petite fille Espérance que je voudrais offrir aujourd'hui ces quelques mots pour que l'espérance nous porte.
Et un bourgeon, en fait, est aussi porteur de cela. Merci à vous, Jean-Marie, au répondeur, sur le répondeur de nombreux messages, donc, cette semaine. C'était évidemment avant cette barbarie d'hier soir. C'était dans le Vaucluse, donc 01 56 40 40 35 sur l'automne.
Oui, coucou Denis, coucou toute l'équipe. Voilà, c'est Chris, là-bas, du Vaucluse. Bien, écoutez, ce matin, je suis partie tôt dans la forêt me faire une petite balade, chercher quelques petits champignons avant que le jour ne débute. Tout était calme, c'était magnifique. Au départ de la maison, le vent tout commençait à s'éclairer là-haut, tout en haut. C'était tout doré, superbe, avec quelques petites écharpes de brume. Oh là là là, qu'est-ce que c'est beau. Quel bonheur ces balades solitaires en cette saison. Les cheminées qui fument dans ce coin de Provence terrienne, et puis cette odeur de bois, bois qui envahit toute la plaine autour du Ventoux, c'est magnifique. C'est l'heure où les oiseaux s'éveillent, et les bruyères qui ont gardé toute l'humidité de la nuit recueillent sous leurs feuilles, sous leurs petites fleurs, toutes jolies, toutes roses, plein de chanterelles. Donc je vais rentrer à la maison, je vais préparer mes champignons, je vais en faire sécher une partie pour cet hiver, pour accueillir les amis, je vais manger les autres à midi. Je vous fais des bises à tous, passez une bonne journée, continuez à nous faire rêver par les oreilles et à tout ce que vous faites, c'est bien.
Merci à vous, Chris du Vaucluse. C'est un message qui est arrivé mercredi. Et mercredi, ben, j'étais dans le Morvan, donc département donc de Lyon, avec un homme qui s'appelle Bernard Berryet. Et donc cet homme-là habite à Trinquelin. Trinquelin se trouve donc pas loin d'un homme dont on va parler. Et l'homme, il est confiturier. Voilà, Bernard Berryet, c'est un homme qui est confiturier, qui suit les saisons avec les fruits. Et donc, il y avait dans cette vallée une odeur, un parfum absolument délicieux. Qu'est-ce que c'était, Bernard Berryet ?
On est en train de fabriquer la compote de pommes.
Ah d'accord, donc alors, bien sûr vous suivez les saisons, c'est-à-dire qu'il y a eu la période des mûres il n'y a pas si longtemps.
Oui, on a fait les mûres au mois de septembre, après ouais. On a fait la pêche de vigne et le coin, et maintenant on en est à la compote de pommes, et puis après on fera la clémentine de Corse.
Ah voilà. Oui, mais ça va être carrément autre chose. Là,
c'est... Oui, bah, c'est-à-dire on fait tous nos fruits en saison.
Alors cette période-là de novembre, qui est merveilleux, hein, ce mois de novembre, il a été fabuleux ici, dans le Morvan comme ailleurs.
Eh bien, il a fait très beau déjà, et puis dans le Morvan, qui est une région très boisée, on a quand même de très belles forêts de feuillus, avec des essences diverses, qui fait qu'on a des couleurs de feuilles d'automne qui sont absolument fabuleuses. Et avec le soleil, c'est magnifique.
Alors Bernard Berryet, pour le confiturier que vous êtes, l'automne, ça a une belle signification.
L'automne, c'est une période de toutes les récoltes, les fruitiers, les pommes, les poires, et puis c'est la période où on engrange pour l'hiver. Quand j'étais gamin, les carottes, les pommes de terre, on récoltait tout. Hein. Mes parents étaient agriculteurs, on récoltait les betteraves fourragères, les carottes fourragères pour les animaux, pour passer l'hiver.
Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, avec votre travail de confiturier, vous essayez au maximum de jouer donc les circuits courts. On se doute bien que vos abricots, ils vont pas venir d'ici. Ah, votre cheval là. Ah, voilà. Oui, il est là, oui, c'est ça.
C'est le cheval de ma fille, voilà, oui. Qui est juste à côté. Et ils ont faim, je crois, à cette heure.
C'est pour ça. Et puis, il mange pas de confiture, lui.
Ah, non.
Qu'est-ce que t'as, toi ? Oui, t'as faim. Et donc Bernard Berryet, circuit court, donc on se doute bien qu'il y a certains fruits, vous n'avez pas trouvé des abricotiers forcément ici, donc ça ce sont des fruits qui viennent de la Drôme, mais vous avez permis à des agriculteurs de replanter dans le secteur.
Oui, on a, ça j'en suis fier, c'est ma variété de cerises, une vieille variété de la Belle de Juillet, qui n'était plus récoltée. C'était une variété acide à cuire, qui était utilisée par les pâtissiers pour faire des tartes et qui se vendait bien sur Paris. Malheureusement, les pâtissiers, ils achètent de la griotte congelée des noyautés et cette cerise se vendait plus. Donc les vergers étaient à l'abandon. Il y a des agriculteurs qui m'en ont remis en état et j'ai même quelqu'un qui en a greffé et qui m'a planté un jeune verger. Et ça, j'en suis fier parce que d'une certaine manière, d'aider à préserver cette variété de cerise.
Et alors, au détour d'un chemin, là, dans notre forêt, on pourrait quoi ? Peut-être voir Vauban à cheval, là ?
Ben oui, parce que, Denis, on est juste à côté de Saint-Léger-Vauban, où il est né. Ouais. On est près de Bazoches.
Château.
Et de son château, oui. Et le soir, à cette heure-ci, il peut arriver de le voir à cheval, effectivement.
Bon, on va essayer de préserver aussi votre cheval parce qu'il a faim.
Hein, voilà. Oui, voilà, c'est l'heure.
C'est l'heure. Bon, voilà. Bel automne à mon cheval et puis bel automne à vous, Bernard Berryet, et puis à bientôt.
À bientôt, Denis. Bonne route.
Bernard Berryet, un des meilleurs confituriers du monde, carrément, la Trinclinette. Donc, il est à Trinclin, c'est à côté de Carré-les-Tombes, à côté de Saint-Léger-Vauban, on l'a bien compris. Et toujours dans le même secteur. Ah, là, on reste dans le Morvan. Ah, c'est une autre image de l'automne avec Pierre. Et qu'est-ce qu'il fait, Pierre ?
Ça, c'est du chêne, ça, Denis, ça. Et ça va taper dur. Tiens, regarde.
Oh là.
T'as vu, ça tape. C'est du dur, hein.
Mais ce qui veut dire que pour vous, Pierrot, l'automne, c'est synonyme de.
Du froid.
Oui.
Et puis tomber des feuilles, et puis faut alimenter pour le feu.
Donc c'est le moment où on fait le bois, quoi.
Voilà. Et puis faut s'en occuper. Hein. Ça tape comme des coups de fusil.
Mais vous rentrez pas que le bois, quand même.
Ah non, on va au mur pour faire les confitures de mur, et puis les coins pour faire la compote. Puis après, il y a les glands, il y a tout ça qu'on peut ramasser pour s'amuser pour les gamins, pour faire des colliers. Hein, pour les glands, de toute manière, il y a beaucoup de monde. Il y a même les voisins et puis les cousins et cousines en même temps.
Ah oui, d'accord. Oui, quand même. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin de se ramasser pour
en trouver. Non. Il y en a plein qui se promènent partout. C'est le moment qu'on ramasse la lumière, le plus joli de la vie.
Et suite de cette promenade automnale qui va nous emmener dans le sud-ouest et après dans la baie de Somme avec Philippe Carvette dans le parc du Marcanterre. Vous êtes sur France Inter, CO2, mon amour. On a aussi besoin de cette musique de vie. Pink Martini sur France Inter, choisie par Thierry Dupin, notre programmateur. 18h, je vous le rappelle, téléphone sonne donc spécial pendant 2 heures avec Nicolas Demorand, donc sur les événements donc d'hier soir. Pendant 2 heures, donc 18h, 20h sur France Inter, le téléphone sonne, Nicolas Demorand. 01 56 40 40 35.
C'est Anne-Claire Collomb du Centre de la Nature Montagnarde de Sallanches en Haute-Savoie. Je voulais vous parler des 9e rencontres alpines qui commencent lundi prochain, le 16 novembre. Pour cette 9e édition, nous avons choisi de parler de changement climatique et c'est Claude Lorius, le célèbre climatologue, qui parraine la manifestation. Il sera présent pour la soirée d'ouverture, le 16 novembre, mais il va aussi ouvrir notre bal des soirées ciné-débat avec le dernier film de Luc Jacquet, La glace et le ciel, qui met en scène son aventure. On traitera aussi d'agriculture, de glaciers, d'alternatives, de transition. Il y en aura pour tous les goûts. Du coup, on vous attend très nombreux pour ces 9e rencontres alpines à Sallanches. C'est du 16 au 26 novembre. Donc à tout bientôt. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.
Et c'est donc la suite de cette ronde d'automne aujourd'hui. On l'a débuté un petit peu avec Jean-Marie Pell, puis on est parti dans le Morvan. Et là, on va aller dans le sud-ouest. On va rejoindre Frédéric Liza qui a créé les éditions Plume de Carotte, qui est naturaliste, qui intervient régulièrement dans cette émission. Donc on va aller du côté de Toulouse, des Corbières, pour découvrir cet automne. Bonjour Frédéric Lizac.
Bonjour Denis. Ah ben effectivement, il a été très doux et ça continue d'ailleurs un petit peu. On pourrait peut-être se poser quelques questions sur le réchauffement climatique, mais enfin on n'ira peut-être pas là. Mais en tout cas, il a été vraiment très très généreux. Alors là, c'est vrai que la plupart du temps, l'automne, c'est la saison de la maturité de tous les petits fruits, de tous les baies, des choses comme ça. Mais cette année, elle a particulièrement été exceptionnelle. Et étonnamment, alors que ça a été un peu trop sec, je dirais, cet été, pour que la nature offre tout ce qu'elle a à nous donner, ça a créé des très très belles choses. Ça a été un petit peu limite sur les champignons, parce que justement, sans doute un petit peu trop sec, mais il y a encore une ou deux semaines, si vous alliez dans les Pyrénées, sur des flancs, vous savez, où l'eau ruisselle un petit peu, là vous avez quelques torrents qui se forment tout doucement, et où la terre est humide, alors là, tapis de trompettes de la mort et de pieds de mouton assurés, il y avait vraiment de quoi faire des belles récoltes et les mettre de côté pour les jours de froidure à venir.
Et alors vous êtes aussi un homme de cueillette sauvage, alors ça, racontez-nous.
Oui, Et oui, parce qu'on pense l'automne, c'est les pommes, c'est les poires, c'est les raisins, c'est les prunes, mais c'est aussi tous les petits fruits sauvages que nous offre la nature. C'est assez amusant parce que d'une année sur l'autre, c'est pas forcément les mêmes fruits, c'est pas forcément les mêmes plantes qui sont les plus généreuses. Il y a 2 ans, c'était une année exceptionnelle pour les mûres. Il y avait eu des bonnes pluies au bon moment et du soleil, elles étaient rondes, charnues, gorgées de sucre. Cette année, il a fait trop sec pour les mûres. De toute façon, elles arrivent début septembre, mi-septembre. Et là, c'était vraiment trop sec à ce moment-là. Par contre, vous avez les églantiers. Oui. Qui fournissent les baies d'églantiers, ce qu'on appelle... Alors, le nom savant, c'est cynorhodon. Mais il y a un autre nom qu'on retient en général plus facilement, c'est gratte-cul.
C'est ça. En tout cas, c'est plein de vitamine C. C'est très bien, ça.
C'est plein de vitamine C. Ouais. C'est plein de petits poils aussi, que si vous les mettez dans le dos, ça fait du poil à gratter.
Bien sûr.
Non. Mais voilà, ces petites baies qui, on dirait des mini ballons de rugby tout rouges, cette année sont très 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 abondants et ça fait effectivement des confitures pas faciles à préparer parce que justement il faut enlever toutes ces petits poils, mais qui sont vraiment délicieuses et très riches en vitamine C. Là, c'est encore un tout petit peu tôt parce qu'il faut attendre les premières gelées pour qu'elles soient bonnes. Ça va être une année à prunelles, le fruit de ce qu'on appelle le prunelier, l'épine noire, exceptionnel. Moi, j'ai vu des haies, mais de loin, on voit une espèce de mur bleuté. Et puis si on s'approche, c'est qu'il est bleuté tellement il y a des prunelles. Alors c'est tout petit, c'est des billes qui font 1 cm, mais vraiment ça en est couvert. Et par contre, là c'est ce que je vous disais, il faut vraiment attendre les premières gelées, parce que même encore aujourd'hui, si vous croquez dans une prunelle maintenant, c'est très très âpre. C'est pas acide, on confond souvent l'acidité et l'âpreté. C'est très très âpre et c'est les premières gelées qui font que les chairs se ramollissent et que ça devient des petites baies sucrées délicieuses. Notamment, on en fait beaucoup en font des alcools. Bon, mais à consommer avec modération, bien sûr.
Et c'est ce que vous ramassez dans vos corbières, là, actuellement?
Oui, alors les corbières, là, sont particulièrement généreuses cette année. Il y a effectivement beaucoup de prunelles. Il y a un autre petit fruit, alors qu'on ne connaît pas beaucoup. On connaît très bien l'aubépine, parce que effectivement, c'est un arbuste qui est très fréquent un petit peu partout en France. Il y a une cousine de l'aubépine, un cousin, si on parle de la plante, qui s'appelle l'azérolier, qui donne des azéroles. Et ça pousse plutôt, effectivement, dans les régions méditerranéennes. C'est une aubépine aussi, mais beaucoup plus grosse. Le fruit a la taille presque d'une petite cerise. Et de temps en temps, vous tombez sur un arbre, parce qu'il y en a assez peu, c'est même quasiment en voie de disparition. Et cette année, il y avait 2 azéroliers que j'avais repérés depuis des années, qui étaient couverts de petites boules rouges. Et il a suffi que j'attende un jour de vent. Il y a eu un jour de vent marin assez costaud. Elles étaient toutes au sol. Je les ai ramassés, j'avais prévu d'en faire 3-4 pots de confiture, j'en ai fait 27, donc ça va, j'en ai largement pour l'hiver et j'en ai aussi pour offrir à droite à gauche. Oui. C'est aussi un petit fruit qui est très riche en vitamine C et qui a une petite acidité, un petit peu comme l'aubépine aussi, même si l'aubépine c'est beaucoup plus difficile d'en faire des confitures parce que c'est vraiment un tout petit fruit, mais voilà, moi j'ai découvert cette année l'azérole et... C'était un vrai petit bonheur d'automne.
Écoutez, merci à vous pour cette cueillette. Je tiens à signaler que vous avez sorti il n'y a pas longtemps Cueillette gourmande de Serge Chal, donc aux éditions Plume de Carotte. On retrouve en partie, on va dire, ces baies, mais aussi plein d'autres. Et puis, cher Frédéric Lizac, on peut vous retrouver aussi ce week-end. Alors là, vous avez changé de climat. Là, vous allez du côté de Clermont-Ferrand pour le festival des carnets de voyage. Un grand merci Frédéric Lizac, à bientôt.
À bientôt Denis, merci.
Voilà, suite de cette ronde d'automne, donc avec nos correspondants nature. Et là, on va partir dans le département de la Somme. Dans la baie de Somme, nous allons du côté du parc du Marcantère.
La balade de Denis Chissou.
Je m'approche, qu'est-ce que je vois? Je vois une longue vue d'abord, puis derrière la longue vue... Philippe Carouette, bonjour Philippe.
Bonjour Denis.
Alors c'est formidable parce que là on est en train de goûter cet automne chez vous dans ce parc du Marcantère. Autrement dit, nous sommes dans la baie de Somme, dans ce département très beau de la Somme, avec cette mer qui rentre dans la terre, hein, toujours, c'est l'origine du nom, c'est ça?
Tout à fait, Marcantère, la mer qui rentre dans la terre, donc un pays de polder, un pays de marais, un pays où la mer et la terre sont en communion. On est plus des terriens que des marins, mais la mer est quelque chose d'important, surtout dans l'estuaire, surtout dans la baie de Somme.
Alors on a toutes ces taches de roues qui sont là, on a les palaricios qui d'ailleurs se sont très bien adaptés, hein. Ils ont quitté la langue corse pour le picard ici. Et on a là aussi tous ces arbres qui sont porteurs aussi de petites graines et de fruits qui intéressent bien les oiseaux. Hein.
C'est vrai que la fin d'automne, c'est une période à la fois de couleurs très chaudes, avec les baies d'argousier, avec le fusain, les pins lariciaux. C'est vrai que malgré qu'ils soient corses, ils sont bien adaptés à la Picardie. Et puis les bouleaux qui ont perdu leurs feuilles. Donc on est vraiment sur des ambiances à la fois de fin de migration. Et puis on s'installe pour l'hivernage.
Petite parenthèse de mer, des temps, surtout des temps de nature. Et donc c'était il y a une semaine, ça à peu près dans le parc du Mercantère avec Philippe Carouette. Il y avait un vent d'est avec un ciel clair, donc une lumière. Alors ça c'est toujours incroyable parce que dans la baie de Somme vous avez toutes les gammes de gris, de bleu, de blanc qui voyagent dans le ciel. Et donc c'était aussi les conditions presque idéales, vous voyez, pour la migration d'un Nils Holgersson perché sur son noix cendré. Et donc on est dans cet immense massif dunaire qui a été créé au fil de l'érosion et puis aussi qui avait été travaillé, 3000 hectares de dunes comme ça d'un seul tenant. Donc dans ce parc du Mercantère où les oiseaux sont heureusement à cet endroit-là quand même bien tranquilles, et nous découvrons cet automne avec Philippe Carouette. Alors dans notre ronde d'automne, que voit-on? Qu'est-ce que l'on voit voler? Et puis, qu'est-ce qui va rester?
Alors, on est à la fois dans ce côté très calme de gros stationnements de sarcelles d'hiver, de canards souchés, de foulques, d'oiseaux d'eau. Et par contre, chez les tout-petits, ça bouge très vite. On assiste actuellement à une grosse invasion depuis le mois d'octobre de mésanges noires. Une toute petite mésange qui est la taille de la mésange bleue, qui fait 9-10 grammes et qui nous arrive de la Baltique en très grand nombre.
Comment ça se fait en fait qu'il y ait ces vagues de mésanges noirs qui viennent?
Alors c'est à la fois surprenant, c'est très sympa de voir ces arrivées d'oiseaux de la Baltique, puis c'est inquiétant parce que c'est un phénomène qu'on appelle l'invasion, donc des oiseaux qui arrivent d'Europe du Nord parce qu'il n'y a pas de nourriture, il y a une crise alimentaire dans les pinèdes, dans les forêts de la taïga. Alors ça se produit depuis très longtemps.
Ça c'est quoi ça? C'est parce que les forêts se reproduisent mal? Qu'est-ce qui se passe?
Alors il y a les pluies acides et puis il y a les changements climatiques aussi. La succession d'hivers doux ne favorise pas la fructification des arbres. On le voit chez nous pour les arbres fruitiers par exemple. Donc les oiseaux...
Ça veut dire que ces oiseaux ne trouvent pas assez à manger, donc ils viennent ici.
Voilà, ils viennent en masse, c'est un exode. C'est un exode alimentaire. Ils arrivent par dizaines de milliers, centaines de milliers le long des côtes dans les forêts de pins. Puis chez nous, la fructification des arbres n'a pas été bonne non plus. Donc on estime qu'il y a 80-90% de ces oiseaux qui vont mourir.
La musique des roseaux. Et au milieu, si on écarte, on va trouver de la bébête. Bon, on a du canard là quand même déjà. Donc au milieu.
C'est vrai que quand on a le vent comme ça dans les roseaux, on a ces bruits dans les roselières qui sont très sympas. C'est le chant des roseaux parce qu'au printemps, ces roselières, ils regorgent d'oiseaux comme les rousserolles, les phragmites. Et là, ils sont partis 6 mois africains, 6 mois européens. Et on a quand même encore un petit peu de vie dans la roselière. Il y a encore le raldo, il y a encore la panure à moustache. Mais,
la quoi? Parce que je connais pas
ça. La panure à moustache, là, c'est un oiseau qui est très sympa. Les mâles ont des grandes moustaches noires. Et puis le plumage est super parce qu'il a la couleur des roseaux. Là, les roseaux sont entre le jaune et le vert, là, au mois de novembre. Quand ils vont être bien jaunâtres, on ne la verra pas, la panure à moustache. Elle aura la même couleur, elle s'identifie à son habitat. Et ça, c'est toujours magique.
Bon, alors les oiseaux qui veulent échapper à la chasse, en fait, parce qu'on entend donc là les détonations, ils viennent ici.
Alors, c'est vrai qu'il y a 200 hectares de réserve, il y a 3000 hectares de réserve naturelle sur le bord de mer, beaucoup de terrain du conservatoire du littoral. Il y a même des fédérations de chasse qui mettent en place des réserves, comme celle de Grand Lavier.
Exact.
Donc, il y a vraiment un souci de protéger les habitats qui se fait petit à petit, progressivement.
On va dire que c'est un intérêt commun, mais pas avec la même finalité.
C'est une nécessité. Il a fallu du temps. Et avec justement ces changements climatiques, il est important que ces habitats soient protégés parce que si on veut que les espèces s'adaptent plus ou moins, et on sait qu'il y en a qui ne s'adapteront pas, ceux qui pourront s'adapter ne pourront s'adapter que si l'habitat est riche. Ah, un épervier en migration là-bas, qui descend, plein sud. Ça c'est les éperviers qui arrivent de Finlande, qui arrivent de Russie aussi, et qui suivent leur beefsteak. Puisqu'en novembre, ils passent encore des grives, ils passent encore des alouettes. Donc, ils voyagent avec leur casse-croûte et gare à la petite grive qui est fatiguée et qui risque de se faire attraper. Hein.
ça se traduit comment, le changement climatique, là, pour les oiseaux, ici, que l'on comprenne?
Ici, c'est très net, parce qu'on est à mi-chemin entre les pays d'Europe du Nord et les pays d'Europe du Sud et le bassin méditerranéen. Donc on voit vraiment des modifications depuis les années 90. On ne s'attendait jamais à voir du héron garde-bœuf, qui est quand même un oiseau...
méditerranéen.
Voilà, méditerranéen, camarguais, j'allais dire, africain à l'origine. Et voilà qu'il remonte en baie de Somme, voilà qu'il arrive en Angleterre, voilà qu'il arrive en Belgique. On a des échasses maintenant qui nichent au printemps. Donc il y a... Les cartes sont un petit peu rebattues. Mmh. Et puis, on voit aussi des espèces qui disparaissent de la région, comme la mésange boréale, qui remonte de plus en plus vers le nord.
Parce qu'ils ont besoin de leur dose de froid, parce que c'est quoi
On a des espèces...
Parce que tout remonte quand même vers le nord. Hein,
voilà, on a des espèces qui sont nordiques d'origine. Et la Picardie était de leur limite sud.
Voilà,
et finalement, ils reviennent vers leur bastion d'origine qui était nordique. Ouais. L'inquiétude est dans les espèces qui sont les plus fragiles. Est-ce qu'ils pourront s'adapter? Un petit passereau qui revient d'Afrique... Et quand il arrive au printemps et que les insectes se sont déjà énormément développés, il n'est plus dans le moment idéal pour arriver.
Philippe Carrette, nos oies cendrées quand même, emblématiques là.
Ah oui, c'est vrai que novembre maintenant est devenu un mois phare pour le passage des oies. Quand j'étais gamin, c'était les gros passages d'oies, c'était quand même octobre.
Ouais.
Aujourd'hui, les oies passent de plus en plus tard. Hein. Ce qui est étonnant, c'est qu'elles passent de plus en plus tard, mais qu'elles remontent de plus en plus tôt.
Donc elles vont partir en Espagne, quoi, 4 mois, c'est tout?
Voilà.
Elles sont en vacances?
Elles sont en vacances en Espagne, mais a priori, l'hivernage en Espagne devient de moins en moins intéressant avec la sécheresse. On se pose la question, justement, est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on aura encore ces grands vols d'oies qui survolent notre région, si les oiseaux vont finir par ne pas passer l'hiver de plus en plus au nord, sur justement les Pays-Bas, sur le sud de la Suède.
Alors quand même quelques mots, parce que là, on est à combien de mètres là, de ces oies cendrées là, qui sont posées?
Ah bah là, on est à 300-400 mètres. En France, on est loin. En France, on est toujours loin pour les oies. Hein. On n'est pas aux Pays-Bas. On a toujours des distances de fuite assez importantes.
Ouais.
Puis nous, 200 hectares sur le parc du Marcanterre, c'est grand, mais c'est tout petit pour une oie.
Ah, et puis alors là, ils sont peut-être pas là toute l'année, là, dans la brume, mais nous avons nos Henson, c'est-à-dire ces chevaux.
Alors ça, c'est des agents indispensables pour le stationnement des oies. Parce que des grandes surfaces, mais aussi des prairies rases, et les chevaux Henson, les chevaux de la région, sont nos tondeuses à gazon, pour entretenir les prairies, d'avoir de l'herbe rase, pour que les oies puissent se poser.
Ça, c'est très beau, ils sont dans la brume, là. Hein.
Oui, on a Gorille dans la brume, on a Henson dans la brume, hein, vous voyez, c'est des belles ambiances. C'est vrai que l'automne, fin d'automne, début d'hiver, là, c'est des ambiances sympas.
Enfin, le jour où vous aurez des gorilles dans la brume, vous me prévenez tout de suite.
Hein, oui, il faudra que la forêt tropicale, là, on sera vraiment tellement changement climatique total, voilà, avec climat tropical, oui.
Un conseil d'automne pour nos amis qui nous écoutent, dans leur jardin, qu'est-ce que l'on fait?
Alors c'est vrai qu'à partir de novembre, là, dès qu'il y a des petits coups de froid, on peut installer une mangeoire avec... Alors, pour la mangeoire, des choses hyper simples. Une mangeoire avec un toit qui protège les graines de tournesol. Les graines de tournesol, c'est suffisant, ça va plaire à tout le monde. Petit conseil aussi, pensez à nettoyer votre mangeoire régulièrement. Tous les 15 jours, tous les 3 semaines, vous enlevez le reste des graines, les fientes, un petit coup d'eau de Javel, un coup de désinfectant, ça évitera... des risques de coccidiose, de salmonelle, de choses comme ça, parce que vous avez des stationnements importants d'oiseaux. Donc il faut entretenir une propreté sur le lieu de nourrissage et surtout arrêter dès que l'hiver est terminé, dès qu'il n'y a plus de froid, c'est plus la peine de nourrir les oiseaux.
Là, vraiment, on a de la chance parce qu'on voit nos oies cendrées.
Là, il y en a 6 qui sont posées. Là.
Et on n'est pas à 400 mètres. Hein,
Là, on est relativement près. Là. Alors, tout de suite, on a été repérés. Il y a un des oiseaux qui dresse la tête, qui surveille. Alors, ce que j'aime bien, c'est regarder aux jumelles, regarder l'œil de l'oiseau. Et on sent qu'il y a une vraie réflexion.
Oui.
L'oiseau va prendre une décision. Est-ce qu'il va partir tout doucement à pattes? Est-ce qu'il va décoller? face à
un danger potentiel. Parce qu'elles sont dans un champ, en train de se nourrir.
Voilà, elles sont en train de se nourrir d'herbes, là, de végétaux. Il y en a encore une autre qui dresse la tête. Il y a toujours notre grand mâle là, qui a la tête dressée, qui surveille. Les autres sont en train de manger.
C'est lui qui prendra une décision, c'est-à-dire que s'il doit décoller, derrière ça va suivre.
Alors ça va suivre et il y aura un signal d'alerte. Il va y avoir un cri, un appel, les autres vont répondre et ils vont décoller un petit peu plus loin. Si on approche doucement, ils peuvent se déplacer sur la prairie, aller un petit peu plus loin.
C'est ce qu'on va essayer de faire. Voilà. Poum, 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 poum. Bougez pas les filles. Non, non, on va pas te piquer là. On est à moins de 50 mètres.
Il nous regarde.
Vous, Philippe, votre automne, qu'est-ce que c'est ?
Je dirais que c'est pas forcément la saison que je préfère. Moi, je préfère plutôt mars-avril, qui est une saison extrêmement dynamique, très bruyante, alors que l'automne, c'est une saison de calme, de quiétude. Parce qu'on entend la foule que là, qui fait ses petits coups de clairon. Finalement, un bon hivernage est garant pour les oiseaux d'une bonne reproduction au printemps. L'oiseau qui hiverne dans des endroits tranquilles, qui est en pleine forme, il a déjà des belles cartes pour bien se reproduire au printemps. Hein. Quand je suis en période d'automne, moi je pense déjà au printemps.
La merveille du parc du Marcantaire dans la baie de Somme, on n'est pas très très loin du Crotoy, donc avec Philippe Carouette, qui était donc notre randonneur d'automne aujourd'hui. Et puis sur le site de CO2 Mon Amour, vous en avez l'habitude, hein, franceinter.fr, donc le site CO2 Mon Amour, vous avez de très belles photos que Franck Diotel nous a offert. Donc vous verrez des photos de bécassines et aussi une très jolie lumière donc de ce parc du Mercantaire. Et puis quand on a besoin de beau, bien cet homme-là avait le beau en pendentif et je vous offre ces quelques mesures. dédié à tous les morts de ce massacre et aussi à leur famille. Pourquoi Mozart? Simplement parce que Mozart, parce que c'était un artisan du beau, parce que cet homme-là nous débarbouille l'âme. C'était un extrait du concerto 21 en ut majeur, Earl Wild au piano, avec le Royal Philharmonique de Londres, dirigé par Anthony Randall. Nous terminons et nous poursuivons cette ronde d'automne avec La Montagne. Bonjour Yves Bernerond.
Bonjour Denis.
Alors Yves Bernerond, vous êtes un naturaliste formidable, forestier. Vous êtes à Lens-le-Villard dans la haute vallée de la Maurienne, donc on n'est pas très loin donc du col de du Mont-Cenis. On a l'Iseran, on a les glaciers de l'Évette qui ne sont pas loin. Évidemment, vous aussi, vous êtes loin, mais vous êtes proche évidemment des gens parce qu'on est tous concernés par ce drame, par cette tuerie absolument monstrueuse, et puis aussi à cet automne qui est là bien installé. Je vous en prie, Yves.
Oui, c'est vrai que dans cette saison de haute montagne, faite de lumière, de silence, de sérénité, ce peuple montagnard qui est le nôtre ne peut pas accepter une telle tuerie, une telle sauvagerie, quelle que soit la motivation qui poussait ces hommes, c'est inadmissible. Et nous sommes complètement solidaires des gens qui ont été touchés par ce terrible massacre.
Alors, on regarde cet automne, et là, actuellement, vous êtes dans un endroit qui s'appelle le Mélésin, avec ses mélèzes superbes, et qui sont peut-être en train de roussir, ou peut-être que c'est la fin, je ne sais pas où on en est, là.
C'est vrai qu'on a eu un début d'automne tout à fait merveilleux, où la lumière se partage, la montagne, avec des zones d'ombre, ces contrastes extraordinaires de l'automne. Mais maintenant, déjà, les feuilles mortes, les feuilles sont tombées. On a de jolis tapis de feuilles mortes sous les quelques feuillus qui sont les nôtres, où on s'amuse à courir dedans pour faire un peu de musique. Mais il y a ces mélèzes qui, il y a quelques jours encore, étaient des flammes, de véritables flammes d'or dressées vers le ciel, qui aujourd'hui ont perdu de leur vaillance pour ne devenir que des mélèzes tout faits de cuivre, de bronze, et qui s'endorment tout doucement avant de déposer leurs aiguilles pour les premières neiges.
Est-ce qu'il nous reste encore quelques petites fleurs? Il reste quelque chose là
ou... Bien sûr, Denis, sur les versants sud, les versants de la Vanoise au sud, les petites fleurs sont encore très présentes. Vous savez qu'à l'automne, c'est une réexplosion des fleurs du printemps. Alors, de temps en temps, un matin, on voit notre belle montagne avec son sourire peint en violet, ou ses yeux soulignés de bleu. C'est l'automne avec des fleurs aussi.
Alors Yves Bernerond, maintenant parlons après du monde végétal, du monde animal. Nos marmottes sahéliennes sont rentrées ou...
Ah oui, c'est sûr, ouais. Les marmottes ont pris leur quartier d'hiver, elles se sont enterrées à 2 mètres ou 3 mètres sous sol pour y passer près de 6 mois. C'est tout à fait extraordinaire, on ne les reverra pas d'ici le mois d'avril. Et puis, bien sûr, c'est la vie aussi qui continue pour les bêtes qui, elles, vont devoir affronter directement l'hiver. Les chamois, entre autres, qui se sont couverts d'un poil beaucoup plus dense, une véritable fourrure polaire, couverte d'un poil long, noir, un peu huileux, qui va leur permettre de traverser les violentes tempêtes de l'hiver. C'est le moment où les grands oiseaux, le gypaète, comme l'aigle royal, cherchent une dernière proie, un peu facile, avant que la neige ne recouvre tout ça. C'est une vie très très forte dans le monde animal aussi.
Qu'est-ce que vous allez chercher, vous personnellement, Yves Bernerond, lorsque vous promenez en montagne, donc à cette césure qu'est l'automne?
Alors, ce que je vais chercher, c'est le calme. Une immensité de calme. Vous savez, cette lumière de haute montagne, tout à fait, qui devient transparente, immobile. Il n'y a pas la moindre ride dans l'air, à tel point que la voix se promène au flanc des montagnes, va très très loin. Les échos se font d'une manière extraordinaire et on y trouve, je sais pas, une retrouvaille de soi-même. Je pense qu'il n'y a qu'à l'automne où on peut se retrouver soi-même, se regarder tout au fond de soi et y trouver quelque chose de fort. Je pense que c'est ce moment-là qui le favorise, oui.
Et puis il y a peut-être les premières neiges qui vont arriver. Donc
elles sont déjà arrivées, voilà. Denis, bien sûr. Ouais. Et alors c'est aussi les premières randonnées d'altitude que l'on commence à faire sur les versants nord pour entendre crisser, jaser un petit peu la neige sous ses pieds. C'est tout à fait extraordinaire. Alors que le versant sud, lui, complètement inondé de lumière, est encore sec, avec seulement un petit ourlet de neige sur les sommets de la Vanoise, c'est tout.
Eh bien, écoutez, un grand, grand merci de Yves Verdon. Nous avons fait partager votre haute, très, très haute Maurienne avec donc l'Iseran qui n'est pas très, très loin. Merci à vous. Merci donc pour cette ronde d'automne à nos différents intervenants. Merci à Ludovic Asselot et Arnaud Caillet qui étaient à la technique aujourd'hui, à Claire Destacan, notre assistante, à Xavier Pestugia qui réalisait l'émission, à Sophie Salio-Marie aussi avec nous, à Thierry Dupin, Anne Gouzon qui a nourri les sites de CO2 Mon Amour. 01 56 40 40 35, vous en avez l'habitude, c'est le répondeur. Possibilité donc de réécouter cette émission, autrement dit le podcast, d'intervenir aussi donc sur le site franceinter.fr. Là tu es mon petit loup, on verra en fonction d'actualité demain 19h54 et dans quelques instants vous retrouvez grand plaisir Emmanuel Queyrade et sa librairie francophone.